Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, bienvenue dans l'équipée sauvage, l'émission de laquelle même les invités les plus prestigieux et même les plus sérieux ressortent à 3,6 g en chantant comme Daniel Pénac hier.
Le pinard, c'est de la vinasse, ça fait du bien, par où ce que ça passe.
Notre cocktail est pourtant sans alcool, un tiers d'infos, un tiers d'humour volontaire, un tiers d'humour involontaire et comme on n'a jamais été très fort en maths, un quatrième tiers de compétition. Chaque après-midi, les plus beaux spécimens journalistiques d'Europe 1 s'affrontent au service de votre culture G. Actu, musique, science, cinéma, littérature, point de croix, tous les thèmes sont permis. Vous votez pour le sujet qui vous emballe le plus et à 18h, nous découvrirons qui a été élu chroniqueur du jour. À mes côtés, une femme complexe. Plus déjantée que Patsy dans Absolutely Fabulous, mais également plus fleur bleue que Bridget Jones, mon éternel complice Eva Rock entame sa 8e année de célibat. Mais peut-être la dernière, m'annonçait-elle hier soir avec un air mi-lubrique, mi-gourmand, quand je lui ai dit qu'aujourd'hui on recevait un des plus fabuleux beaux gosses du cinéma français. Ses sens n'ont fait qu'un tour, et qui sait, telle la belle au bois dormant, elle va peut-être enfin se réveiller aujourd'hui.
Bon, moi c'est sûr qu'il faudrait plus qu'un simple baiser pour me réveiller.
Oui, bonjour Eva Rock.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Je suis hyper gênée.
Vous rougissez.
Mais non, mais
vous
c'est
rougissez.
Nul.
Vous êtes notre spécialiste média, Eva.
Ouais,
je
non,
ne vous présente donc pas Samuel Lebihan. J'imagine que vous connaissez. Vous avez peut-être même 2-3 posters de lui à la maison.
Ah ouais.
Bonjour Samuel Lebihan.
Bonjour.
On est tous,
vous l'avez compris, on est tous ravis de vous recevoir dans l'équipe à des degrés d'enthousiasme différents, parce que certaines sont quand même au bord de la syncope, surtout en régie. Vous nous présentez la sortie en poche d'un roman très autobiographique, on va y venir, il s'intitule « Un bonheur que je ne souhaite à personne », l'histoire d'une maman qui se bat pour aider son fils autiste à s'intégrer. Il y a évidemment beaucoup de vous dans ce livre, puisque vous en parlez librement, vous avez vous-même une fille autiste, donc c'est votre histoire, mais romancée.
Non, c'est pas mon histoire.
Il y a des choses que vous avez vécues.
C'est l'histoire de ces mamans qui se battent. Et donc, j'avais lu des articles dans les journaux et j'avais été extrêmement impressionné. Ces mamans qui sont en haut des grues.
On se souvient des images.
Et voilà, donc je me suis dit, il y a une belle histoire à raconter derrière qui permet à la fois d'apprendre ce que c'est l'autisme et en même temps de vivre des vraies émotions sur une femme seule avec ses enfants qui doit se battre pour ses enfants et puis qui se pose aussi des questions sur l'amour, sur c'est quoi la vie, c'est quoi ce qui lui est donné dans cette société, c'est quoi sa place et c'est quoi cette quête du bonheur. Et la question du bonheur est centrale dans le livre et puis j'avais envie de parler d'une femme guerrière, une espèce de lionne qui se bat pour ses enfants et qui se transforme au moment où justement elle découvre que ses enfants sont fragilisés. Ça m'émouvait énormément.
On va évoquer ce livre qui a aussi pour mission de faire changer le regard qu'on porte sur l'autisme en France, pays pas vraiment en pointe sur le sujet, vous nous expliquerez pourquoi Samuel Lebihan. Mais d'abord je vous présente nos deux premiers journalistes en lice pour la couronne suprême de chroniqueur du jour. Ah, celle-ci, si Meghan l'avait vue, elle aurait réfléchi à deux fois avant de se tailler au Canada. À ma gauche, depuis sa promotion au poste très envié de vice-chef adjoint délégué du service culture d'Europe 1, Mathieu Charrier suscite en interne pas mal de jalousie. D'aucuns se demandent même comment il a fait pour arriver si haut, si vite.
Des faveurs sexuelles en échange de promotion.
Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour à tous.
Je me disais aussi comme bah oui, vice-chef adjoint délégué. Si jeune, vous avez quel âge?
Non, mais c'est
je ne sais pas d'où vous sortez.
Et on rappelle que c'est Ève Roger, sa chef.
C'est fou. Vous êtes notre expert cinéma et bande dessinée, Mathieu. Et aujourd'hui, on en parlait mercredi dernier avec nos invités Jules et Catherine Meurice. Ça y est, vous l'avez, le rapport Racine.
Le fameux rapport Racine à quelques jours du début du festival de la bande dessinée d'Angoulême qui dénonce la situation dans laquelle sont les auteurs de bande dessinée aujourd'hui en France et qui tente d'esquisser quelques solutions vers ça. Alors que Macron est attendu jeudi au salon.
Vous y serez?
Bien sûr.
Évidemment. À ses côtés, Samuel Lebihan, un poids lourd en péril. Chef du service économie d'Europe 1, Emmanuel Dutheil se morfond pourtant dans les profondeurs du classement, devenant même la risée de ses collègues. La dernière fois, l'une d'entre elles a carrément lancé à l'invité.
Il n'y a qu'à voter pour Emmanuel Dutheil, il est tout au fond du classement.
Ah oui. Je ne peux pas le croire. Bonjour Emmanuel Dutheil.
Je ne sais pas si je dois vous dire bonjour. Non.
Bonjour à tous.
Et si ce 28 janvier était le jour du rebond? Pour cela, direction le Luxembourg, Emmanuel.
Ah ouais, je tente vraiment tout, on n'imagine pas. Non, parce qu'on croit qu'il n'y a qu'en Grande-Bretagne que ça ne va pas dans la famille royale. Bah, je peux vous dire que c'est encore pire dans la famille grand-ducale du Luxembourg. Je vous passionne tout de suite avec ça.
Alors, je veux dire que moi qui adore les têtes couronnées, moi qui ne rate pas une chronique de Stéphane Bern, je peux vous dire que je suis vraiment au taquet. Merci Emmanuel Dutheil, on connaît le programme, l'équipe est sauvage peut démarrer.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc Samuel Le Bihan qui nous accompagne cet après-midi. Alors Samuel, vous avez un parcours professionnel et personnel vraiment atypique dans le métier. On va en parler tout au long de l'émission. Vous faites mille et une choses. En 2018, vous avez publié un roman intitulé « Un bonheur que je ne souhaite à personne ». Un livre qui a connu un très grand succès qui ressort aujourd'hui en poche aux éditions J'ai lu. Dans cet ouvrage, vous racontez le désarroi et le combat d'une mère qui apprend que son fils est autiste et qui va se battre pour qu'il ait la vie la plus normale possible. C'est quoi déjà pour un enfant autiste la vie la plus normale possible? Il ne faut pas souhaiter qu'il soit dans une institution particulière, il faut qu'il soit déjà en classe normale. C'est quand on est parent d'un enfant autiste, c'est déjà ce qu'on désire le plus.
En tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'un enfant autiste qui est au contact des enfants, ce qu'on appelle typiques, des personnes typiques, a plus de chances d'évoluer, d'apprendre un certain nombre de choses, surtout dans les interactions sociales, et puis dans le langage, dans les demandes, dans les reconnaissances d'émotions, de toute une palette de choses qu'on a normalement à notre naissance et qu'il faut qu'il apprenne. Je pense que c'est aussi extrêmement enrichissant pour les enfants aussi dans l'école, d'être au contact de la différence.
Il y a des pays où ils s'en sortent mieux que nous vis-à-vis de l'autisme. Je crois qu'en Italie, en Angleterre, notamment, la scolarisation atteint des taux de 80, voire 100%, je crois, dans certains pays.
En Italie, ils atteignent presque 100%, parce qu'ils ont décidé aussi, l'intégration totale. Donc, c'est fermer au maximum tous les centres et pour obliger, vraiment, mettre des mécaniques en place pour l'intégration.
Alors, à terme, et en France, c'est combien, juste pour avoir une idée?
Je sais plus, je crois que c'est 20%.
Ouais, c'est ça n'a rien à voir, quoi. Ouais. On est loin du compte.
Si on intègre quelqu'un, si on arrive à lui même créer au sein d'une entreprise aussi des postes adaptés, on crée une dynamique à la fois solidaire et en même temps, on crée plus de bonheur, tout ça aussi, et puis plus de possibilités d'évolution. On crée une société qui est beaucoup plus intéressante.
Changeons notre regard sur l'autisme. Un bonheur que je ne souhaite à personne, c'est le livre de notre invité Samuel Le Bihan et notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, les courbes du CAC 40 et les chiffres du PIB ne sont qu'une des multiples facettes de son métier, car Emmanuel Dutheil est non seulement chef du service éco d'Europe 1, mais également spécialiste tête couronnée. Or, rien ne va plus au pays des princes et princesses. Après le Mexit en Grande-Bretagne, voilà qu'une polémique agite maintenant le grand-duché du Luxembourg, Dudu est à cran.
Il y en a ras-le-bol.
Mais il prendra sur lui pour nous expliquer quand même ce qui se passe. C'est ça aussi, l'abnégation journalistique.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, vous écoutez L'Équipée Sauvage, l'émission qui fait l'unanimité, puisque demandez à n'importe quelle personne dans la rue, elle vous dira
« J'ai jamais entendu un truc aussi idiot !»
Bref, on passe un bon moment, avec le très agréable Samuel Le Bihan, acteur devenu auteur pour exprimer à travers un roman qui ressort en poche ce que c'est que d'avoir un enfant autiste. Un bonheur que je ne souhaite à personne, c'est le titre. On continue évidemment de le feuilleter ensemble. Mais vous le savez, mon cher Samuel, la compétition n'attend pas. Et visiblement, la grande duchesse Maria Teresa, encore moins. Son Altesse serait même, selon Emmanuel Dutheil, un chouïa soupolé. Au Luxembourg, en tout cas, la presse en fait ses choux gras.
Oui, je pense que vous faites tous comme moi le matin. Vous regardez l'actualité de la famille grand-ducale sur leur compte.
Moi, j'ai une alerte Google.
Ouais. Moi, je regarde sur leur compte Instagram, qui est pas mal. Cours grand-ducale pour celui qui aurait envie d'aller le chercher.
Il faut imaginer la vie d'Emmanuel Dutheil.
Mais je fais pareil avec le Bhoutan, avec.
Ah oui,
on ne fait pas que la Grande-Bretagne quand même.
Tous les pays.
C'est très sympa au Bhoutan. Enfin, bon, bah, donc là, la cour grand-ducale. D'habitude, on a des photos très officielles. Le grand-duc qui descend d'avion pour aller à Jérusalem à la suite.
Effectivement, c'est intéressant.
Mais il est allé lui aussi il y a quelques jours en mémoire des victimes de la Shoah, ce genre de choses. C'est pour ça que je vous donne l'une des dernières actualités de la cour grand-ducale. Hier, trois photos d'un coup qui arrivent du couple grand-ducal, très amoureux, au bord du lac de Genève. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Et là, un coup de tonnerre du grand-duc. Déjà, en trois langues, ils ont publié le message. En luxembourgeois, oui, ça existe. En anglais et en français. Et qu'est-ce que nous dit le grand-duc? Pourquoi attaquer une femme qui défend les autres femmes, une femme à qui on ne donne même pas le droit de se défendre? C'est rarissime que le grand-duc s'exprime à titre extrêmement personnel. On voit que le message a été écrit par lui. Et donc ça, c'était totalement, allez, on va dire quasiment inédit.
Mais de quelle femme parle-t-il?
Eh bien, de ça. Propre femme, la grande duchesse Maria Teresa, qu'il a épousée un 14 février, qu'il avait rencontrée à Genève, justement, lors de ses études. Elle est d'origine cubaine, elle vient de la haute bourgeoisie cubaine, et ils s'étaient rencontrés sur les bancs de l'école avant qu'elle arrive au Luxembourg. Alors pourquoi il défend comme ça sa femme? Parce que scandale à la cour grand-ducale. Il y a un rapport qui a été commandé par le Premier ministre du Luxembourg, Xavier Bettel, pour essayer de regarder ce que font finalement la famille Grand-Ducale de l'argent qu'ils leur est attribué. Ils ont 11 millions d'euros quand même qu'ils leur est attribué. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce que, semble-t-il, dans les soirées en ville au Luxembourg, ce qu'on fait tous chaque samedi soir à Luxembourgville, hein, si vous cherchez, c'est assez joli, la petite vieille ville de Luxembourgville est assez jolie, et bien ils se racontaient déjà depuis quelques temps que la Grande-Duchesse était dictatoriale. Était méchante, faisait partir et fuir tous les personnels du palais. Alors c'est vrai, quand on regarde un petit peu la liste de ceux qu'on connaît, c'est un peu des officiels, pas mal de communicants sont partis, ce genre de choses. Même moi qui m'y intéresse, pour être très honnête, j'étais pas du tout au courant de ça. Mais là, depuis hier,
vous imaginez... pensiez qu'elle était sympa, quoi, la grande.
Bah ouais, franchement, je croyais qu'elle était très très sympa.
Non, on est... c'est vrai qu'on tombe de haut, finalement.
Mais on tombe de haut,
moi, personnellement.
Mais
voilà.
Semble-t-il, les Luxembourgeois, eux, en tout cas ceux qui sont un petit peu au courant, ne tombent pas de haut parce que c'était assez connu, semble-t-il, dans les dîners en ville, que la Grande-Duchesse avait ce caractère un petit peu euphorique, ou en tout cas ce caractère très, très explosif.
Mais alors, la question là, que tous nos auditeurs, et j'ai envie de dire que toute la France se pose, et je vois dans les yeux de Samuel Le Bihan cette question, c'est mais quelles pourraient être les conséquences?
Et bien, je suis allé lire la presse luxembourgeoise. Oui, là aussi, il y a des titres, hein, luxembourgeois. Alors, pour être très honnête, je suis allé lire la presse en francophone. Hein. Je ne vais pas aller lire en luxembourgeoise, parce que ce n'était pas tout à fait calé. Mais arrêtez de vous moquer de moi, franchement.
Non mais il est en train de nous faire 3 minutes sur la Grande-Duchesse qui n'est pas gentille, quoi.
Eh ben oui, mais alors vous savez quelles conséquences il pourrait y avoir? Et ça pourrait sûrement illustrer une de vos énièmes BD là. Eh ben, on pourrait arriver, selon la presse luxembourgeoise, jusqu'à l'abdication du Grand-Duc.
Non, mais non.
Si. Oui, mais...
Ah ben ça serait un séisme.
Non mais... Un, ce serait totalement un séisme, et surtout que le Grand-Duc est quand même le chef d'État du Luxembourg. Alors, c'est un rôle très honorifique, surtout qu'il a perdu quelques prérogatives en 2008, puisqu'il avait refusé de signer une loi sur la fin de vie, sur l'avortement. Enfin bon, il y avait eu un petit souci, il avait perdu quelques prérogatives, mais ça reste quand même vraiment l'incarnation de la nation, donc ça pourrait quand même avoir une conséquence extrêmement importante. Et puis, ça la fout mal quand même, quand le Premier ministre vient comme ça enquêter sur le... Mais je sens que vous moquez complètement.
Mais non, il faut tenir jusqu'au bout, Emmanuel. C'est comme un rôle. Samuel vous le dira. Il faut croire dans votre rôle jusqu'au bout. Hein.
Bah, à la fin, je peux pas vous la raconter. Le rapport n'a pas été encore remis.
Tout ça pour ça.
Eh bien, vous reviendrez nous faire un follow-up, comme on dit, rapport
sera remis. Maintenant, quasiment au quotidien.
Plus sérieusement, quand même, 11 millions. Mais il y a quand même 11 millions d'euros qui sont en cause.
11 millions d'euros par an de dotation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que, semble-t-il, les fonds sont utilisés de façon... à soutenir un peu le train de vie de la famille Grand-Ducale plus qu'à vendre le Luxembourg, parce que c'est quand même leur boulot. Ce sont les VRP du pays, ils courent partout pour essayer de vendre le Luxembourg.
Ils vendent pas très bien le Luxembourg, parce que moi, par exemple, j'avais jamais entendu parler de cette Grande-Duchesse, par exemple.
Bah quand même.
Écoutez, Emmanuel Lutheil, revenez nous dire vous en saurez plus, parce que là, le suspense est immense.
Europe 1.
C'était devenu l'Arlésienne dans le monde de la bande dessinée.
Non, moi j'ai le point du pour rire. Franchement, ça devrait être valorisé, ça.
C'était devenu l'Arlésienne dans le monde de la bande dessinée. Le rapport Racine commandé par le gouvernement, certains le disaient même enterré. Mathieu Charrier, qui va partir bientôt à Angoulême, s'est procuré ce fameux rapport qui est enfin sorti. Que dit-il? Qu'est-ce que ça va changer pour les auteurs et les lecteurs de BD que nous sommes? On vous dit tout après Thomas Dutronc. C'est si bon sur Europe 1. Oui, Mathieu?
Non, je voulais préciser que j'avais repeint mon appartement avec une peinture à l'algue.
Merci pour cette précision.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission qui, au-delà de sa dimension potage destinée à égayer votre fin d'après-midi, s'intéresse véritablement à l'invité. Ici, on lit les livres, on assiste aux pièces de théâtre, on voit les films de nos invités, qui plus est, évidemment, si on est vice-chef adjoint du service culture, comme Sandrine Bonner avait pu le constater lundi dernier face à l'inénarrable Mathieu Charrier. Tu l'as vu le film, Mathieu, ou pas?
Quel film?
Le film de Sandrine.
Non, je crois pas.
Alors aujourd'hui, je vous rassure, Samuel Le Bihan, non, Charrier n'a pas lu votre livre.
D'ailleurs, 10 jours avant la sortie.
Il ne savait même pas que vous aviez publié un livre, hein. Il est resté au Pacte des Loups, lui. Mais moi, je l'ai lu. Il s'intitule « Un bonheur que je ne souhaite à personne », l'histoire fortement inspirée quand même de votre vie, puisque vous avez, vous aussi, un enfant autiste, une fille. Vous avez parlé d'elle l'autre jour sur Instagram, ça vous arrive de temps en temps. Et le message là était vraiment très très mignon, très touchant. C'était une photo au ski. Et vous disiez, comment imaginer qu'un jour cette petite fille chausserait des skis, elle pour qui monter un escalier était une opération compliquée. Je sais que pour toi, chaque apprentissage est bien plus difficile et pourtant, tu n'hésites jamais. C'est des moments qui doivent être magiques quand on vit une situation compliquée comme ça et qu'on se retrouve au ski avec sa fille.
C'est surtout, on démarre de tellement loin et on se rend compte que les méthodes éducatives, ça a été ce qu'on appelle la méthode ABA, c'est une méthode comportementaliste. qui ont été assez décriés en France pendant très longtemps et qui aujourd'hui commencent à être intégrés et qui lui ont permis de complètement changer. Ça a été miraculeux. Et je suis toujours extrêmement impressionné. Alors, pour elle, c'est plus difficile. Elle doit tout apprendre, même des émotions du visage, elle ne sait pas les reconnaître. Et elle a appris à reconnaître un visage triste, un visage gay. Mais à force de je récompense tous ses efforts, je célèbre toutes ses victoires et je l'encourage tout le temps lorsqu'elle a du mal. Et on franchit des barrières insensées, quoi. Et donc aujourd'hui, elle peut faire du ski. C'est inimaginable, parce que le cerveau, il dirige le corps aussi. Donc évidemment, l'équilibre, elle ne peut pas faire de trottinette, par exemple. Mais peut-être que maintenant, elle pourrait être capable d'en faire. Mais c'est un objet, donc elle voyait d'autres enfants jouer avec. Et elle s'y intéressait, mais arriver à poser une jambe et pousser avec l'autre, c'est déjà une opération assez complexe. Et aujourd'hui, on arrive à faire des choses beaucoup plus... c'est extrêmement émouvant pour moi.
Et est-ce que les choses sont acquises? C'est la question qu'on se pose aussi quand on a un enfant autiste. Est-ce qu'on arrive à acquérir des compétences on les conserve ensuite? Ou est-ce qu'on peut désapprendre aussi?
Oui, on peut désapprendre. Mais
comme nous, en fait.
Oui, comme nous, mais elle a besoin d'être stimulée tout le temps.
En permanence.
Tout le temps, et aujourd'hui, elle demande d'être stimulée. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça devient un jeu. Et puis, il faut y créer aussi des bons souvenirs. Il faut qu'émotionnellement, on ait envie d'y retourner. Et donc, il faut créer un contexte.
Et là, c'était bien le ski. Vous étiez content? Elle était contente?
Mais c'était génial. C'était vraiment génial. Et je me dis que voilà, un jour, je vais pouvoir partager ça avec elle.
Vous pouvez nous rappeler quel âge elle a, votre fille?
Maintenant, elle a 8 ans.
8 ans.
Ouais.
C'est un battant, et pas seulement dans le pacte des loups, Charrier. Samuel Le Bihan est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, certains d'entre nous ne font pas un métier facile. 2 semaines que Mathieu Charrier s'envoie des petits fours et du champagne aux frais de la princesse. À peine le festival de l'Alpe d'Huez terminé, il y a celui d'Angoulême en ligne de mire. Mathieu Charrier, le patachon du news, en sa qualité de vice-chef adjoint du service culture, est évidemment accrédité aux premières loges. Un train de vie qui commence à agacer en interne, notamment son grand rival, Axel de Tarlé.
Là, je pars à l'Alpe d'Huez demain.
Ça va, t'as un journalisme un peu tranquille, toi? Tu vas à l'Alpe d'Huez pour enquêter?
Tu pourrais venir, Axel, finalement.
Ah non, moi je travaille, moi, si tu veux. Hein.
Heureusement, entre deux petits fours, Charrier a réussi à se procurer le rapport dont tout le monde parle dans le monde de la bande dessinée, le rapport Racine. Il nous en dévoile son contenu dans un instant.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Chérir vos neurones sans snober vos zygomatiques, voilà l'ambition de l'équipe est sauvage. 2 heures pour départager les meilleurs journalistes d'Europe 1. Compétition rieuse, mais compétition avant tout aux yeux de certains chroniqueurs comme Mathieu Charrier, qui est devenu assez nerveux depuis qu'il participe à notre championnat. Limite parano.
Pourquoi il se marre, lui? Pourquoi tu te marres?
Mathieu, vous vous apprêtez à partir au festival d'Angoulême avec sous le bras ce fameux rapport Racine que les auteurs de bande dessinée attendaient un peu comme l'Arlésienne. Vous allez nous dire ce qu'il y a dedans, mais d'abord j'aimerais que vous nous confirmiez le tableau que nous avait fait Catherine Meurice du festival d'Angoulême la semaine dernière à ce micro, alors que j'osais une comparaison avec le festival de Cannes. Est-ce que le festival d'Angoulême, moi j'ai jamais eu la chance d'y aller, c'est un peu comme le festival de Cannes, c'est un peu des soirées à gogo, du champagne qui coule à flot, ou c'est une autre ambiance?
C'est plutôt ambiance gastro et grippe. C'est un chouette festival.
Ah ouais, ça a l'air génial. Vous avez votre Imodium, vous partez quand?
C'est pas totalement faux ce qu'elle dit. Mais non, mais vous savez, Angoulême, c'est des bulles, vous savez, des sortes de grands chapiteaux à travers toute la ville, surchauffés. Souvent il y a même de la condensation, donc vous avez
c'est propice au développement des germes.
Ah, c'est un peu propice, mais c'est aussi ce qui fait le charme. C'est
une bonne gastro,
c'est quand même une petite ville de 50 ou 60 000 habitants qui accueille 200 000 personnes sur 4 jours. Donc c'est vraiment, la ville se transforme.
On vomit, mais on vomit tous ensemble. Et c'est bien là l'essentiel, et c'est la magie d'Angoulême. Effectivement. Alors ce rapport, Mathieu Charrier.
Oui, alors ce rapport. Déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'aujourd'hui, les auteurs de bande dessinée n'arrivent pas à vivre de leur art. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez plus d'un auteur sur 2 qui gagne moins que le SMIC, et plus d'un auteur sur 3 qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc ça veut dire, moi hier, j'ai discuté avec un auteur, il me disait qu'il était payé à la page dessinée. C'est un dessinateur, il s'appelle Guilhem. Et vous savez combien il gagne pour une page de bande dessinée? Ça lui prend à peu près 15 jours de dessiner une page de bande dessinée.
Une page
200 euros
non, voilà, 300 euros.
Ah oui, 300 euros
brut,
pour 15 jours.
Derrière, il doit payer ses charges, etc. Donc il
en fait
2 par mois, on ne peut pas vraiment en vivre.
Mais c'est dû à quoi alors, cette faible rémunération?
Il y a plusieurs raisons. La raison principale, c'est qu'aujourd'hui, vous avez plus de 5000 bandes dessinées nouvelles qui sortent chaque année en France. Alors, c'est formidable, parce qu'évidemment, c'est une proposition artistique qui est dingue, c'est la possibilité pour beaucoup d'auteurs d'être édités, donc c'est génial. C'est une stratégie au départ des éditeurs qui se sont dit, plus on va créer d'offres, plus on va proposer de titres au public, plus ils vont en acheter. Mais évidemment, vous avez aussi une dilution des ventes, c'est-à-dire que à une époque où un album en moyenne se vendait 5, 6, 7, à 7 000 exemplaires, aujourd'hui vous êtes plutôt autour de 1 000, 1 500, 2000 exemplaires. Donc ça ne suffit pas pour rembourser, vous savez, les fameux avaloirs. Et donc les auteurs, ils touchent une avance sur leur album et point final. Alors là, on parle des auteurs, de la majorité des auteurs. On ne parle pas des quelques auteurs stars, évidemment, qui arrivent à très bien vivre de la bande dessinée, mais la majorité, aujourd'hui, n'arrive pas à en vivre. Ensuite, on demande aux auteurs de faire de plus en plus de choses, de faire de la promotion, de faire des séances de dédicaces. À Angoulême, on en parlait, vous avez des centaines d'auteurs qui dédicacent en temps réel, et pour ça, ils ne sont pas payés.
Il n'y avait pas d'ailleurs justement une,
bien sûr, ils demandent,
une proposition que les séances de dédicaces soient payantes.
Mais ils demandent, ils disent, attendez, nous, on nous demande de dessiner pendant des heures. L'éditeur vend des... Parce que pour pouvoir faire dédicacer votre album, il faut que vous l'ayez acheté sur le salon. Donc l'éditeur, lui, il vend des titres. Et puis eux, ils sont derrière leur petite table à dédicacer gratuitement. Donc ils disent, à un moment, ça commence à bien faire. Donc beaucoup sont obligés de travailler à côté, dans l'illustration, dans la publicité, etc.
Alors, ils préconisent quoi, ce rapport Racine?
Alors, il est très très technique, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, il y a 23 mesures, mais on va dire qu'il y a trois grands axes. Déjà, le premier, c'est de définir un statut d'auteur clair, ce qui permettrait évidemment derrière de constituer un corps professionnel. Aujourd'hui, les auteurs n'ont pas de statut, parfois même ils sont auto-entrepreneurs, vous savez, donc ils sont pas...
Oui, et donc ça veut dire que ce n'est pas simplement pour les auteurs de bande dessinée, ce serait aussi pour les auteurs de scénarios,
exactement,
etc.
Exactement. D'accord. Deuxième groupe de mesures, ce serait, grâce à ça, d'organiser des élections professionnelles dans chaque secteur, dans le dessin, dans la couleur, etc. Ce qui permettrait évidemment de mieux défendre...
Avoir une guilde des auteurs, comme aux États-Unis, où ils sont très forts.
En plus, vous avez déjà un syndicat des éditeurs. Donc eux sont déjà bien structurés, défendent leurs intérêts. Les auteurs, ce n'est pas le cas. Et puis, il y a aussi la création d'un conseil national des auteurs, des artistes-auteurs, où là, pour le coup, tout le monde siégerait, les éditeurs, les auteurs, etc. Et on discuterait tous ensemble pour définir peut-être un prix de page minimum, peut-être un... Parce qu'en plus, ce qui se passe, c'est, vous savez, on a tous connu les albums classiques, 46 pages, là, les Tintin, oui. Astérix, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on en discutait il y a quelques minutes avec Samuel Le Bihan.
En antenne, oui.
Non, même à l'antenne.
Ah, même à l'antenne, oui. Ah, bah, oui. Oh, mais vous savez, moi, je ne fais aucune distinction, c'est ma spécificité. Pour moi, je ne vois pas de frontière entre les deux.
C'est que la bande dessinée aujourd'hui, elle est sous des formes diverses. Et c'est vrai que le roman graphique, par exemple, vous avez des BD, j'en lisais encore une hier soir, elle faisait 300 pages. Donc travailler sur un album de 300 pages, ça prend évidemment plus de temps que de sur un album de 46 pages. Donc voilà, ils espèrent être entendus, ils espèrent qu'Emmanuel Macron va décider des mesures, d'autant qu'on est, vous le savez, on en parlait avec Catherine Meurice et Jules, dans l'année de la bande dessinée qui a été décidée par le ministère. Donc tout le monde se dit, si c'est pas cette année qu'on prend des mesures et qu'on essaie d'aider les auteurs, ce sera jamais.
Samuel Le Bihan, vous avez réussi en tant qu'acteur, mais vous auriez pu aussi être un auteur de bande dessinée ou de roman d'art graphique, puisque vous rêviez de faire les Beaux-Arts, non, dans votre jeunesse.
Oui, je dessinais énormément, j'étais pas trop mauvais. Maintenant, la bande dessinée, c'est un autre exercice. Mais aujourd'hui, justement, c'est tellement créatif que ça touche vraiment le domaine artistique dans le sens large, aussi bien visuel, au niveau de l'écriture. Enfin, il y a une espèce des échos. Justement, moi, j'étais membre du jury au Festival d'Angoulême et j'avais été surpris de la force, de la créativité, de la diversité de la proposition et de l'audace aussi.
Moi, ce qui je pense manque pour le Festival d'Angoulême, c'est une BD sur le duché du Luxembourg. On a mis ça, signé Emmanuel Dutheil, ça pourrait être intéressant.
Il y a des bandes dessinées sur les grandes couronnes, etc.
Mais c'est peut-être que tout mon existe. Rapport Jeannot-Varingo, parce que c'est le nom du rapport, soit fait en bande dessinée.
Non, peut-être pas. Parce que là, l'auteur, je ne suis pas sûr qu'il en vivrait pour le coup.
C'est sûr. Là, ça serait plutôt 1 euro la page. En attendant le Festival d'Angoulême, je vous invite à découvrir son roman Un bonheur que je ne souhaite à personne. Samuel Le Bihan passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, faire semblant de comprendre quand elle ne comprend rien est son métier. Et elle s'en acquitte avec brio, comme face aux digressions de François Berléand jeudi dernier.
Ça change beaucoup, ouais. Tout ça, ça...
Bah oui, parce que la mémoire, coup, j'avais une page blanche et une page...
manuscrite, ouais.
Et là, on m'a mis des deux côtés. Tout à coup, c'est plus... On n'a plus l'air... voilà. C'est incompréhensible ce que j'ai dit.
Non,
vous êtes notre invité, tout est compréhensible. Faire semblant de comprendre, c'est simple, mais faire semblant de savoir, c'est plus dur. C'est le problème de ce moment que vous attendez avec impatience et qu'elle redoute tant. Le quiz qui oppose Eva à l'invité, Le Bihan en rock, duel épique en perspective.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
2 heures à cheval sur le journalisme et le divertissement en compagnie d'un invité d'honneur aujourd'hui, Samuel Le Bihan. Bienvenue si vous nous rejoignez dans l'équipe est sauvage. Une émission extrêmement travaillée en amont, on vérifie tout 3 fois, sauf peut-être le nombre d'enfants de l'invité. S'il y a un domaine où on doit encore progresser, c'est là. Vous êtes papa, vous avez 2 enfants si je ne m'abuse.
3.
Vous avez 2 enfants et vous...
J'en ai 5.
Vous avez 5 enfants. Ouais. Mes filles sont bien faites. Vous avez déjà 3 enfants si je ne m'abuse, c'est ça?
Non, j'en ai qu'une seule.
Salut Anne Lebihan, dites pas. Vous n'avez bien qu'une fille.
J'ai trois enfants.
Eh bien voilà, c'est parfait. Encore banco. Samuel Lebihan, j'étais en train de me dire hors antenne que vous n'étiez pas un invité facile pour un intervieweur parce que vous avez une vie tellement multiple, vous avez fait tellement de choses. Rien que dans votre parcours de comédien, si Wikipédia dit juste, vous avez été cracheur de feu.
Vous avez fait
la comédie française, mais vous avez tout fait, quoi. C'est incroyable comme parcours.
C'est encore du dingue, parce que j'ai démarré en jouant dans la rue. Donc forcément, je faisais du mime, un mime assez burlesque où je suivais les gens. Enfin, c'est ce qu'on retrouve. J'ai même joué sur le parvis de Beaubourg. Et cracher le feu, voilà, c'est avec les rencontres. À un moment, on apprend des choses. Et puis après, j'ai un peu organisé tout ça.
Si j'avais rencontré quelqu'un qui m'a dit, tiens, je vais t'apprendre à cracher du feu.
Bah, ça vous a peut-être regardé où vous en seriez aujourd'hui, Eva, au lieu d'être là à bouffer vêtements dans un micro. Alors, mon cher Samuel Lebihan, on discute paisiblement, mais ma vraie nature, la vilainie, n'est jamais loin. C'est l'heure du quiz qui va vous opposer à Eva Roche. Si je peux me permettre un petit conseil, attention à ne pas trop réfléchir, car c'est un quiz qui présente une double difficulté. Il est non seulement très con, mais en plus il est truffé de pièges, donc c'est absolument inutile d'essayer de répondre sérieusement, comme Daniel Pénac hier. Daniel Pénac, il y a tellement de personnes portant le nom de Andersen en Norvège que le pays a eu trois premiers ministres à la suite qui s'appelaient ainsi alors qu'ils n'étaient pas de la même famille. Vrai ou faux ?
Parce que, voyons, j'en ai connu deux, Jean-Paul Andersen. Il y avait Françoise Andersen et Lucille. Donc il y avait quand même un gars et deux filles. Non, oui, c'est vrai.
C'est vrai,
oui.
C'est faux. Donc, mon conseil, répondez plutôt à l'instinct. Aujourd'hui, entre la niçoise et le fier breton, nous avons décidé d'organiser une joute géographique. Je vais vous poser des questions sur Nice, la ville natale d'Eva. Et à cette dernière, je vais poser des questions sur votre Bretagne adorée. Pour l'un comme pour l'autre, ce sera un peu rendez-vous en terre inconnue. Une bonne réponse, un point. C'est parti. Samuel Lebihan, Dick Rivers, est né à Nice. Alors déjà, il n'y a pas de vanne. Dick Rivers est né à Nice, c'est factuel. Oui. Chanteur des Chats Sauvages, il a fait également quelques reprises assez bien senties, parmi lesquelles, trois propositions. Une parmi ces trois propositions. Une reprise en slow de Personal Jesus des Depeche Mode. Deux, une reprise disco de Pretty Woman de Roy Orbison. Ou un twist de Let the Music Play de Barry White.
C'est pas vraiment une question sur Nice. Hein.
C'est pas vous, c'est
oui,
Samuel qui
Oui, je sais bien,
qui
mais quand même, j'essaie de le défendre.
Le plus probable.
Allez, le plus probable, Barry White, éventuellement, mais...
Barry White, alors ça, je dois dire que Dick Rivers qui chante Barry White, voilà. J'aurais voulu l'entendre. Écoutons voir si c'est ça. Il avait opté pour une reprise disco de Roy Orbison.
Ah, c'est disco,
ça ? Ah, ça, c'est disco. Bah, pour Dick, c'est très, très disco, ça. Ah, c'est magnifique. C'est...
Mathieu
Charrier. Je savais que vous aviez bon goût, Mathieu Charrier. Eva Rock.
Oui.
En décembre dernier, dans la gare de Brest, comme les urinoirs pour hommes étaient gratuits et les toilettes des femmes payantes, qu'a décidé la SNCF ? 1. D'installer des pistes de boue gratuites pour les femmes. Ou 2. De supprimer les urinoirs pour les hommes.
Et je crois que c'est des pistes de boue pour les femmes.
Et c'est une mauvaise réponse.
Ah,
c'était effectivement la bonne réponse qu'aurait dû apporter la SNCF.
Bah oui.
Ça aurait été quand même un peu malin. Mais non, ils ont supprimé les urinoirs gratuits. Résultat, selon les internautes qui ont trouvé cette décision aberrante, le parking de la gare sent un petit peu fort l'urine. Les hommes se soulageant un peu partout. Boys will be boys. Mathieu Charrier, vous en savez quelque chose. Samuel Lebihan et Eva Rock, vous répondez en même temps. Quel produit n'existe pas en Bretagne ? 1. Un gel douche au Queen Amman. 2. Du pastis made in Bretagne.
Ah, si, ça, ça
ou 3. Le pâté Hénaff à l'andouille de Guéméné.
Ça existe aussi.
Ouais. Oh,
donc vous répondez.
Douche,
mais attention. Réfléchissez bien.
Moi je dis le gel douche. Le gel douche.
Très bien. Peut-être que Samuel, qui lui n'a pas un jeu sur la langue, peut répondre autre chose.
Évidemment, c'est le gel douche au Cognac.
Non, mais il faut se méfier parce qu'il est suffisamment.
Ah, je vous ai pourtant averti.
Moi je dirais la 3.
Il y a un mec.
Je vous ai pourtant averti.
Il est fourbe.
Vous avez faux.
Voilà.
Car ils existent tous.
Non. Voilà.
Le pâté NF à l'enduit de Guéméné est parfumé aux pommes. Le pastis breton est produit à Dinan. Le gel douche au Queen Amman est produit à Saint-Donant, dans les Côtes-d'Armor. Eh bien, je vous en ferai livrer. Alors, ça, un gel douche au Queen Amman.
Ça doit coller.
Mais pourquoi vous vous caressez en faisant ça ?
Je me caresse. Pour se laver, il faut un petit peu se caresser.
D'accord.
Eva Rock, Ubisoft,
oui.
La célèbre entreprise de jeux vidéo, tire les trois premières lettres de son nom de Union des Bretons Indépendants. Vrai ou faux ? Ubisoft, qui a quand même produit des jeux énormes, comme Assassin's Creed par exemple.
C'est faux.
Eh bien, c'est vrai.
C'est des Bretons là. C'est les Bretons.
On leur doit la franchise, par exemple, de Assassin's Creed, mais aussi Just Dance. Ouais. Ubisoft a été créé par les frères Guillemot.
Et les lapins crétins, surtout.
Et les frères Guillemot qui étaient originaires de
Bretagne.
Oh, vous avez bien suivi. Samuel Le Billon, attention, c'est la question qui va vous départager. Repartons à Nice et l'UNS. Comprenez, l'Université Nice Sophia Antipolis. En sont sortis dans des disciplines différentes Michel Larocque, Jean-Pierre Bacri et Le Clésio. Mais aussi une personne qui a décroché une licence de droit. Vous avez 13 secondes pour l'identifier en écoutant. Je t'aime trop, un titre sorti en 1978, mais chanté par qui ? Avez-vous reconnu cette voix ?
Aucune idée.
Un indice.
Un indice ? Il a écrit un tube pour quelqu'un. Allez, je vous donne un indice, il a aussi écrit un tube.
Je sais. Non, c'est Julien Lepers.
Oh ! 4 à la fin, pas 4 à la fin. Oh, la suite, c'est déjà pas mal pour Eva. C'est effectivement Julien Lepers qui a également composé pour le plaisir d'Herbert Léonard. Alors, qui remporte ce quiz ? C'est un peu serré, mais c'est quand même effectivement Samuel Le Billon qui l'emporte. Oui. Les calculs sont formels, Eva. Ne contestez pas l'argent.
Je n'ai rien dit.
Il a triomphé de la bête du Gévaudan, mais Eva Rock, c'était encore un autre morceau. Il l'a fait. Sacré bonhomme que ce Samuel Le Billon.
Europe 1.
À suivre, c'est l'histoire d'un monument historique qui mériterait une rénovation complète.
C'est moi ?
Non, c'est pas vous. C'est le phare de Cordouan, dans l'estuaire de la Gironde. Du haut de ce phare, 4 siècles nous contemplent.
Attendez, je me mouche.
Oui, mais bah, essayez de vous intéresser un peu à ce que je dis. Seulement, ça coûte bonbon de le rénover. Alors, si vous pouviez faire un chèque, notre correspondant dans l'Ouest vous explique, juste après Blur, Girls and Boys sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage avec Samuel Le Billon. 2 heures de rire et de découverte au plus proche de vous, y compris en région. Direction l'océan aujourd'hui. Un océan qui n'a aucun secret pour Eva Rock, la sirène de la baie des Anges, comme elle l'avait prouvé au grand plongeur, Laurent Balesta.
Est-ce que je dis une bêtise si tu veux que je la dise quand même ? Je la dis bien dans le micro, comme ça tu la récupéreras. Les mérous, le nombre de tâches qu'ils ont, ça constitue leur pièce d'identité en fait, c'est ça ? C'est...
Alors effectivement, tu peux la garder.
Soyez honnête.
Pas de débrief, on s'en fout.
Soyez honnête.
Lui, comment ça, soyez honnête ? C'était faux ?
Non, il a dit que c'était vrai après.
C'était pas ce que vous aviez dit. Lui, il connaît bien l'océan. On retrouve tout de suite notre correspondant dans le Sud-Ouest. Bonjour Stéphane Place.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous, bonjour Eva et bonjour aux mérous.
On les embrasse tous. Ici, dans ce studio, nous réunissons quotidiennement des phares de la pensée, on peut le dire. Mais il faut bien reconnaître que ça n'aide pas toujours à la navigation.
Pas toujours.
Surtout en comparaison du roi des phares, le Versailles de la mer, unique au monde, pas un lampion qui jette une lumière crue sur votre gueule de bois du samedi soir, Eva. Le phare de Cordouan, à l'embouchure de l'estuaire de la Gironde, est en lice pour une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Et moi aussi.
Ah, ça, je savais pas, ça c'est un scoop. Pour le phare de Cordouan, nous saurons en juillet prochain, et donc peut-être aussi pour Eva, s'il décroche cette inscription prestigieuse au patrimoine mondial. Le phare de Cordouan, c'est magnifique, hein, l'appartement du roi, la chapelle. Alors, il y a une étude internationale pendant 1 an et demi, et au bout, croisons les doigts, espérons cette reconnaissance pour ce monument exceptionnel. Pascal Gau, conseillère départementale, préside Gironde Tourisme.
C'est le seul phare au monde de pleine mer encore habité par des gardiens. C'est le seul phare royal au monde, puisque c'est Louis XIII et Louis XIV qui en ont décidé la construction. La lentille de Fresnay a été inventée également dans ce phare. C'est un phare qui est ouvert à la visite du printemps jusqu'à l'automne. C'est un phare où on reçoit entre 20 et 23 000 visiteurs avec les contraintes d'accessibilité, hein, parce que les marées, la météo, etc. Mais c'est un phare qui passionne pour 2 axes, à la fois la vie des gardiens, et c'est assez magique d'imaginer des hommes du 1er janvier au 31 décembre sur le phare, et puis toute cette originalité technique et patrimoniale de Cordouan, donc c'est un phare qui suscite l'intérêt.
Et il sera encore plus beau ce phare de Cordouan après les travaux de restauration qui sont en cours, des millions d'euros, des ouvriers et des matériaux qu'il faut transporter en hélicoptère. Je vous recommande vraiment la visite. C'est vrai notamment pour Samuel Le Billon qui aime la mer, qui navigue, qui sait notamment barrer un voilier d'après ce que je sais. Mmh. Et puis au retour du phare de Cordouan, vous traverserez le Médoc, vous suivrez la route des châteaux, vous vous arrêterez dans une propriété.
Ça intéresse plus Eva.
Oui, je le sens bien.
La partie bateau, le fait avec Samuel, et puis ensuite la partie pinard, apparemment elle sera plutôt hors de vous là.
plus calé que sur les mérous. Mais oui, alors là, vous pourrez visiter les chiens donc, et vous offrir une petite dégustation. C'est une dégustation, Eva, hein, c'est pas la fête de la bière. Et à la fin de la journée, eh bien, je pense qu'après avoir vu autant de merveilles, le phare, les châteaux, bah, vous retrouverez foi en l'humanité, c'est clair.
Vous connaissez ce phare, Samuel Le Bihan ? Vous l'avez déjà visité ?
Oui, non, pas visité, mais je l'ai déjà vu.
Vous l'avez déjà vu. Il faudrait organiser une. On devrait aller le visiter. Moi, ça m'a fait rêver. Merci.
Une émission depuis le phare de Cordoue.
Ah oui.
Une émission tout en haut du phare.
Le jour où ils sont inscrits au patrimoine.
Ouais, Mathieu Charrier, il y a 300 et quelques marches. Hein. Je pense qu'on va en perdre quelques-uns en route.
Mais Mathieu Charrier est absolument fit.
Oui, oui, tout c'est vrai. C'est vrai.
Suivez-nous sur Europe1.fr.
Malgré les petits fours et tout ça dans les salles. Oui, c'est vrai, il est fit.
Merci beaucoup Stéphane Place, notre correspondant dans le Sud-Ouest. Europe 1. Qui sortira vainqueur aujourd'hui ? Deux nouveaux prétendants à la couronne de chroniqueurs du jour se préparent en coulisses avec deux sujets passionnants, le comeback des trains de nuit et une momie de 3000 ans qui parle. Toujours en compagnie de notre invité d'honneur Samuel Le Bihan qui apprend à connaître Eva Rock.
Il paraît que t'es du genre célibataire, un peu baise partout. Tu vois.
Non, je vous en prie Samuel. À tout de suite, restez à l'écoute. Surtout, si vous êtes fan d'Angèle, il se pourrait qu'il y ait une petite surprise pour vous.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Que nos amis américains ouvrent grand leurs oreilles, car il y a plus fort que le show de la mi-temps du Super Bowl, le show de la mi-temps de l'équipe est sauvage. Eva, 3, 4.
Vraie malchance, j'en ai mes 3.
N'y va pas.
Et la fierté qu'ici je n'ai pas.
N'y va pas.
Non, n'y va pas. Époustouflant. Pourtant, pour ceux qui voudraient encore plus de show, toute la semaine, on vous offre Angèle en concert, Eva.
Vous connaissez forcément, hein. Samuel Le Bihan, on est obligé. Hein. Si vous rêvez de l'avoir en concert, eh bien, ce rêve peut devenir réalité grâce à nous. Europe 1 vous invite au prochain concert d'Angèle. C'est à Nantes et à Caen les 6 et 7 février avec la personne de votre choix. Et pour ça, vous tentez votre chance en envoyant Nantes ou Caen par SMS au 739-21. C'est 75 centimes plus le coût du SMS et 2 SMS pour jouer. Vous vous dépêchez parce que le tirage au sort il s'arrête jeudi soir. Donc vous faites le 739-21 code Nantes ou le 739-21 code Caen pour ce qui vous arrange la ville en question.
Voilà. Oui, mais c'est bien de préciser quand même. On ne sait jamais. Voilà. Bonne chance à tous, toute la bande de l'équipe est sauvage se prépare pour une deuxième heure. On va parler du retour des trains de nuit et d'une momie qui parle. Mathieu Charrier, avant de céder votre place, un dernier mot.
Figure-toi que je suis un adepte de la peinture à l'algue.
Oui,
je repeins toute ma maison avec Algo Paint.
Algo Paint, oui, formidable. Alors, on vous écouterait toute la nuit nous parler d'Algo Paint. Hélas, écoutez Charrier.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous êtes sur Europe 1, vous écoutez l'équipe est sauvage, deux heures d'une chevauchée à bride rabattue sur la plaine fertile du savoir, une émission partiellement filmée, n'en déplaise à Eva Rock qui ne se trouve jamais assez bien lorsqu'elle s'aperçoit à l'écran.
Cette tronche qu'on a, mais en noir et blanc, fait un truc, mais des filtres.
Deux heures également en compagnie d'un invité vedette aujourd'hui, le comédien Samuel Le Bihan, pour la sortie en poche de son roman Un bonheur que je ne souhaite à personne. On continue d'en parler. Simplement, le temps, Samuel, de vous présenter nos deux ultimes concurrents du jour. À ma gauche, il est le consultant scientifique d'Europe 1, directeur de la rédaction de Ciel et Espace. Son prestige est tel qu'il est le seul chroniqueur qui n'a pas demandé un autographe à l'invité, mais à qui l'invité a un jour demandé un autographe. C'était Garou, fasciné par l'incroyable érudition scientifique d'Alain Sirou. Faut dire qu'on apprend tellement de choses avec vous, Alain, comme encore vendredi.
On a pour la première fois ce signal extrêmement faible de ce qu'une plante est capable de détecter ça. Alors qu'est-ce que ça change ? Ben, on n'en sait rien.
Bonjour Alain Sirou.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Samuel, bonjour à tous.
Après avoir fait parler la Lune vendredi, voilà que ce soir vous faites parler une momie. Je vois que vous n'avez pas taillé dans le budget alcool à Ciel et Espace.
Mais non, mais c'est Black, ça m'a fait penser à Black et Mortimer, dont le dernier album, si je puis dire, à Angoulême.
C'est vrai, c'est sur une momie.
Oui, c'est pas la dernière momie, mais c'est le dernier pharaon. Et j'ai voulu faire un teasing très accrocheur.
Ah, parce qu'elle parle pas la momie ? Ah, bah, je m'attends à ce qu'on entende.
Elle parle pas. Mais attendez, non, chez nous, elle va parler, Mathieu. C'est pour ça que je vous réserve cette exclusivité.
Très bien. À ses côtés, Samuel, elle est bretonne comme vous. Quand elle vous a vu passer tout à l'heure dans le couloir menant au studio Coluche, dans sa tête, ça a fait. Elle vous a vu passer, mais au ralenti. Échafaudant dans son esprit lubrique un scénario digne de 50 Shades of Grey, qu'on aurait pu rebaptiser ici 50 Shades of Le Bihan.
Et il nous fouette à la fin.
Oui, ça c'est notre jardin secret, Anne. On ne veut pas savoir. Je préfère garder de vous l'image d'une femme prude. Anne, aujourd'hui, je sens que vous allez proposer à notre invité de passer la nuit avec vous à bord d'un train.
Exactement. En matière de transport, il y a des vieilles recettes qui reviennent. On a eu le retour du tramway, le retour du dirigeable, récemment le retour du vélo et de la trottinette par temps de grève. Et bien là, c'est le retour des trains de nuit qui est en train de s'installer en Europe. On va en parler.
Le comeback du train de nuit ou le retour de la momie qui cause, qui l'emportera dans ce Camoulox éditorial? La réponse tombera juste avant 18h. En attendant, penchons-nous, Anne, mais pas trop, sur notre invité. Qui est pour vous Samuel Le Bihan? On est allé vous poser la question. Voici, non pas notre micro-trottoir, toujours monté pour cirer les pompes de l'invité, voici notre micro-trottrache. C'est la même chose, le cirage en moins.
Samuel Le Bihan.
Il a un physique sympathique, une bonne gueule, des yeux clairs si je me souviens bien.
Le regard déjà, très, très sûr de lui-même, comme s'il veut convaincre quelqu'un.
Trop beau, trop canon.
Et plus près de Gérard Jean-Vain que de Junio quand même.
Et puis comme son nom l'indique, évidemment c'est un breton.
Les seconds rôles, c'est pas sympa de dire ça? Il entend? Non. C'est horrible, vous m'avez pas dit ça?
Charmeur.
Oui, voilà, voilà, c'est ça, je crois que c'est ça, en effet. La bête du Gévaudan, exactement.
Bah, il est un peu baraqué, il a une belle gueule, il fait un peu baroudeur, il est bien.
Le Bihan, excellent.
Alors nous notons l'excellente analyse. Le Bihan, il est quand même plus proche de Gérard Lanvin que Gérard Jugnot, ça c'est vrai que c'est, ouais, c'est bien. Alors Samuel, ce qui est très agaçant chez vous, et j'en suis d'autant plus intimement convaincu que je le ressens moi-même, c'est que vous plaisez autant aux femmes qu'aux hommes, mais le revers de la médaille, de cette sympathie que vous suscitez, n'est-il pas que dans un pays comme la France, où la gentillesse est souvent vue comme moins intéressante entre guillemets que la méchanceté ou la fêlure, on aime bien les acteurs qui ont l'air de ne pas aller bien? Est-ce que ça vous a joué des tours, ce côté sympa, spontanément sympathique que vous avez?
Je sais pas, je sais pas.
Vous pensez pas, que pour des rôles de méchants, par exemple, il aurait fallu être un peu plus mystérieux, plus méchant en interview, plus sombre?
Oui, il y a eu des moments de ma vie où j'ai essayé de jouer un personnage comme ça pour, en me disant que ça marcherait mieux, mais ça marche pas du tout. En fait. Dès lors qu'on perd son naturel, c'est foutu, quoi. Donc oui, j'ai laissé tomber les personnages. Je me suis dit, bon, après tout, c'est moi.
Vous faites preuve aussi de beaucoup d'autodérision par rapport à d'autres acteurs, parce qu'à une époque, le Gorafi, vous avez un peu épinglé avec des articles où il disait on a retrouvé le talent de Samuel Le Bihan décédé, dans sa chambre. Et au lieu de le prendre mal, vous aviez fait tout un truc à l'époque. Vous avez fait un film, vous partiez à la recherche du talent de Samuel Le Bihan, c'est ça?
Oui, ben en fait, j'ai trouvé mon homonyme. Donc il est planqué à Pontrieux. Et il est passé capitaine, là. On est toujours en lien. Ouais. Et il s'appelle Samuel Le Bihan. Donc je suis allé dans le village de Pontrieux en cherchant Samuel Le Bihan. Donc c'était très drôle parce que j'allais dans les commerces.
Et vous n'avez pas vu Samuel Le Bihan?
Oui, oui,
et
Samuel
personne faisait le lien.
Bah si, justement. Il comprenait pas. Mais en même temps, il savait qu'il y avait un Samuel Le Bihan dans le village qui était pompier. Et donc ils m'ont indiqué doucement. Je suis allé à Lyon, on s'est rencontrés. C'était vraiment drôle parce qu'on a fait n'importe quoi. Après, on a dansé, on a mis de la musique. Enfin, c'était vraiment très sympa. Et donc je lui dis, voilà, vous êtes Samuel Le Bihan. Là, on m'a dit que votre talent était mort, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis mon carte d'identité pour prouver que Samuel Le Bihan, dit le talent ça meurt pas. Il dit ça meurt pas le talent.
Et vous avez aucun lien de parenté?
Non, absolument pas. Ouais.
Non, c'est juste
jamais.
Un homonyme, ouais. Eva.
Oui, non, mais c'est jamais.
Vous disiez à vos débuts, moi je viens d'un milieu ouvrier et me voici dans le showbiz. Cette ascension sociale modifie les codes, les relations, mais on me fait parfois sentir, même avec gentillesse, que je ne suis pas à ma place. Ça, c'est encore quelque chose que vous ressentez aujourd'hui ou c'est fini?
Non, c'est fini.
C'est fini. Mais c'est au début, il y a une phase d'adaptation quand même.
Peut-être. En tout cas, c'est des métiers extrêmement compétitifs aussi. Alors donc, chacun essaye de prendre sa place et c'est pas toujours. C'est parfois c'est un peu tendu ou faussement sympathique, mais ça c'est normal, c'est la règle du jeu, faut l'accepter, quoi.
Vous n'avez que des amis dans le métier?
Oui, j'ai plein d'amis dans le métier.
Non,
c'était pas ma question. C'était pas ma question.
Non, mais j'ai pas.
Non, parce que je vous pose
je
la question.
Comme je veux.
Non, c'est vrai, mais je me permettais de vous la poser parce que vous êtes si sympathique qu'on imagine mal Samuel Le Bihan avoir des inimities en fait.
Non, il y a pas de raison. Mais je suis toujours assez ému par le talent des autres. Je vois des acteurs qui font des choses, je me dis, mais comment il a fait ça? J'aimerais bien en être capable parfois aussi.
Il faut dire aussi que vous êtes producteur,
oui,
pour ceux qui ne suivent pas Samuel
Le Bihan.
C'est vous qui avez découvert François-Xavier de Maison, notamment, qui a produit son premier spectacle. On l'aime a priori, je vais vous dire, a posteriori, on l'aime encore plus. Samuel Le Bihan passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, elle a passé la première heure en régie à fantasmer sur Samuel. Maintenant qu'elle est passée de l'autre côté de la vitre, réussira-t-elle à garder son sang-froid devant le Playboy du cinéma français? Anne, vous vous souvenez encore quand même de votre sujet?
Je vais vous parler d'acteurs qui ont des poils.
Mais pas du tout, vous vous parlez des trains de nuit, c'est ça qui est écrit dans le tableau.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue avec Samuel Le Bihan pour la sortie en poche de son livre Un bonheur que je ne souhaite à personne. Moi, un bonheur que je souhaite en revanche à tout le monde, c'est de croiser un jour la route d'Anne Le Gall. La seule usagée de la SNCF qui, durant les grèves, après avoir paroté 2 heures sur le quai, montait à bord du RER en chantant gaiement. Oui, Samuel, je vous présente notre soleil quotidien, spécialiste environnement d'Europe 1, Anne Le Gall, qui a cette faculté inouïe de voir toujours le bon côté des choses, même quand, et c'est là que c'est magique, il n'y a pas de bon côté des choses. Comme le prouve cet échange non monté, je tiens à le préciser, la semaine dernière.
J'ai essayé de réserver des billets de train, le site de la SNCF, mais ne marche pas un coup sur deux, quoi. Tu ne peux pas, tu fais tout ton truc, et à la fin, il te dit votre session est expirée, il faut recommencer.
Ah bon ?
J'ai perdu plein de billets comme ça.
Tu m'as donné envie d'acheter des billets de train.
Bah non, Anne, on peut pas toujours être content de tout.
C'est Anne, légèrement monté.
Aujourd'hui, vous êtes en joie, enfin vous êtes comme d'habitude, car le train de nuit, c'est peut-être pas fini.
Exactement. Il y a 10 jours, alors qu'en France, il y avait encore les grèves et que les passagers râlaient sur les quais, voici l'ambiance qu'il y avait en gare de Vienne, en Autriche. Voilà, c'est l'ode à la joie.
C'était oui, c'est le pas la partie dimanche... la plus joyeuse de l'ode à la joie.
Non, mais
je vous apprendrai
juste...
à choisir des sons.
Imaginez la scène, on est dimanche soir, il est 20h30, ah là, c'était le 19 janvier. Et pour fêter le départ du tout nouveau train de nuit Vienne-Bruxelles, un orchestre jouait l'ode à la joie sur le quai. Il y avait des photographes, 420 passagers, tout heureux à l'idée d'emprunter cette nouvelle ligne qui a été relancée par la compagnie autrichienne OBB. Elle avait disparu depuis 16 ans. Alors c'est Vienne-Bruxelles, c'est 14h, 15 arrêts, 1000 km. Et à l'arrivée, le lendemain, donc à Bruxelles, à 10h54, voici ce que deux passagères confiaient à nos confrères de la RTBF.
C'était assez sympa. Nous avons passé la nuit dans un compartiment avec 6 personnes. C'était chouette de simplement socialiser et rencontrer des gens au hasard. Pendant la nuit, on sent toujours le mouvement du train. Donc vous ne pouvez pas dormir pendant 10 heures directement, mais ça allait.
But it was okay. Alors, c'est vrai qu'on ne dort pas toujours très bien dans les trains de nuit. Moi, je me souviens, j'ai beaucoup voyagé en train de nuit dans ma jeunesse. Vous croyez vraiment que ces trains peuvent concurrencer l'avion ?
Mais oui, non, mais quand même, Paris-Venise, Paris-Moscou, Paris-Moscou, c'est 38 heures, 300 euros. Voilà, 38 heures quand même. Mais ça fait rêver. Hein. En tout cas, la compagnie autrichienne OBB a senti le filon. Elle a racheté il y a 3 ans les vieilles lignes de la Deutsche Bahn et elle a réussi à les moderniser, à les développer. Désormais, on peut circuler sur 25 trajets dans l'Europe avec cette compagnie. La fréquentation a augmenté de 10% par an. On a des cabines pour 50 euros et puis on a le confort au-dessus, donc la cabine individuelle pour 135 euros avec le petit déjeuner et la douche.
La douche.
Et oui,
ah
voilà.
Et pour la salle de bain, c'est combien ?
Mais voilà, dans 135 euros,
pour la salle de gym.
Ça faudra encore l'inventer. Donc les Autrichiens s'y sont mis, les Suédois, les Finlandais, les Britanniques. Il faut dire que le train émet 10 fois moins de CO2 que l'avion. Ça permet d'économiser le prix d'une nuit d'hôtel, éventuellement. Et certains experts ont calculé qu'en fait, la moitié des déplacements qu'on fait aujourd'hui en avion, ça pourrait se faire en train de nuit compte tenu du réseau.
Le problème, Anne Le Gall, c'est qu'en France, ce n'est pas vraiment la tendance du moment. N'en déplaise à notre invité Samuel Lecoq, qui adore prendre le train de nuit, comme il nous le confiait tout à l'heure.
J'adore, parce qu'Alex Hugo, la série que je fais sur France 2, ça se tourne à Briançon.
Oui.
Et à Briançon, soit on passe par l'Italie et c'est un peu compliqué, ou alors on prend le train de nuit et on arrive à Briançon le matin. Et c'est un charme, mais de dingue, parce que pendant la période des grèves, le seul train qui fonctionnait, c'était celui-là. Et soit en y allant avec des potes ou avec ma fille, on se réveille le matin, on est à la montagne, c'est magique. Mais j'avoue que c'est quand même plus sympa avec les cabines individuelles. Quoi.
Voilà.
135 euros.
Vous êtes un petit vénard parce qu'effectivement, il n'en reste que 2 lignes de nuit en France. Il y en avait une douzaine il y a 10 ans. Il reste le Paris-Briançon et puis il reste aussi le trajet vers les Pyrénées, le Paris-La Tour de Carole. C'est vrai qu'en France, on a un peu laissé tomber à un moment les lignes de nuit, mais on est en train de faire marche arrière. La ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, a promis une rénovation des wagons et une amélioration des services pour les années qui viennent. Donc on peut y croire. Et puis on va aussi noter qu'il y a une pétition qui a été lancée par un collectif qui s'appelle Oui au train de nuit. Pétition qui a recueilli 172 000 signatures sur
nous,
Internet.
On dit oui au train de nuit.
Oui au train de nuit.
On dit oui.
Alors il faudra un petit peu rénover nos rames à nous en France.
Ouais. Mais rénovons nos rames, c'est dur à dire ça. Rénovons nos rames. On remercie Anne Le Gall. Votre chronique mérite-t-elle les 3 points? Le verdict de nos auditeurs tombera juste avant 18h.
Europe 1.
À suivre, afin de vous guider dans la jungle des programmes télé, Eva Rock passe ses nuits à ingurgiter films, séries, documentaires, d'où ses petits yeux. Ça va quand même, Eva? Vous tenez le coup?
Je crois que je vais avoir besoin d'un café. Je suis en train de tomber.
Les conseils télé d'Eva arrivent et si jamais ils n'arrivent pas, faites comme moi. Vous fatiguez pas, vous regardez OSS 117 sur C8 ce soir. En attendant, voici Jean-Louis Aubert, Où je vis sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
C'est une belle rencontre de cinéma à laquelle nous assistons aujourd'hui. Il a joué sous la direction de Bertrand Tavernier, Kieslowski. Il a interprété au théâtre les plus beaux textes de Racine, Corneille et Hugo. De son côté, elle a doublé les plus beaux films de John Birut. Elle a notamment été la voix de Tabata Cash dans 3 remakes de films de Samuel Le Bihan, Le Pacte des Louves, Capitaine Con et Restons groupés dans la baraque à Soka.
Est-ce que tu la sens? Est-ce que tu la sens à la chaleur?
J'en oublie peut-être.
Le caleçon de Richard Burton.
Ah oui, si c'était votre meilleur celui-là. Samuel Le Bihan, ça doit être assez intimidant de vous retrouver face à une comédienne de la trempe des baroques. Samuel.
Mais que vous êtes con.
Oui, c'est vrai, ça résume assez bien notre relation, c'est pas faux. Samuel, on le disait, vous êtes un acteur très populaire, vous avez joué au cinéma, au théâtre, à la télé, dans des séries dont nous allons parler, mais vous êtes aussi un homme très engagé, et ce depuis toujours, ça a démarré vraiment très jeune, vous dites, petit, je détestais Noël, alors avec mes copains, nous allions organiser ceux du Secours Populaire. Mon engagement humanitaire a débuté comme ça.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est enfin, que des acteurs s'engagent sur le tard, une fois leur carrière faite. C'est quelque chose qu'on voit fréquemment. Vous, que ça commence si jeune, c'est beaucoup plus rare.
Comme une espèce de vocation.
Beaucoup plus sincère. Mais non, mais c'est vrai. Donc, il y a une forme de sincérité dans votre démarche.
Oui, en même temps, de curiosité. J'essaye de comprendre comment fonctionne notre monde. C'est pour ça que j'étais au conseil d'administration d'Action contre la faim. C'était vraiment sur une autre idée géopolitique de notre planète. Et comprendre comment aussi... même la faim peut être utilisée dans le monde, comment c'est quoi les déficiences économiques sur des pays, enfin il y a une espèce de compréhension de comment avance notre monde et comment moi je m'y inscris à l'intérieur.
Vous n'avez pas l'impression d'être différent des acteurs que vous fréquentez? Parce que franchement, on en reçoit beaucoup et il y en a qui sont passionnants. Mais vous avez un tel intérêt. C'est-à-dire que beaucoup d'acteurs, quand même, à un moment, regardent un peu leur nombril. C'est peut-être normal, c'est le métier qui veut ça. Vous, on a l'impression que vous êtes ouvert complètement sur le monde.
Parce que mon métier de comédien correspond à ça. C'est-à-dire qu'on disait, voilà, je viens d'un milieu populaire et ça m'a permis de m'ouvrir sur le monde. C'est-à-dire que j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens incroyables, j'ai lu des livres insensés. Enfin, et ce métier, c'était surtout ça qui me plaisait. C'était ce qu'il pouvait me procurer en termes de vie, de changement de vie. J'avais envie de changer le jeu de cartes qui m'était donné et de voir de faire de cette terre un terrain de jeu. Ce métier m'a permis ça. Et du coup, j'ai rebondi aussi sur plein d'autres choses qui m'intéressaient, qui assouvissent ma curiosité. Alors, il y a l'engagement, mais bon, alors je prends pour l'autisme, là, j'ai monté une plateforme qui s'appelle Autisme Info Service. On a ouvert le 2 avril et aujourd'hui, on a pu résoudre 2500 cas. Donc c'est extrêmement pertinent et c'est gratifiant de se dire tiens, j'ai pu apporter quelque chose à la société, j'ai pu moi mettre ma notoriété pour ouvrir certaines portes et derrière il y a toute une équipe de gens, Florent Chapelle et toute l'équipe qui mettent les choses en œuvre derrière et ça fonctionne bien. Et puis il y a sur l'environnement aussi
Earthwake
que je fais.
Mais ouais. Oui, parce là, que vous avez du temps, donc on peut aussi créer ça en plus.
C'est une équipe, c'est beaucoup plus ingénierial puisqu'on développe des techniques pour revaloriser les déchets plastiques, donc surtout à destination des pays émergents, donc des choses qui sont en hauteur d'hommes. Pour des villages, choses comme ça. Donc, c'est passionnant parce que je suis avec des gens qui ont des niveaux d'études en ingénierie, en économie ou autre. Et donc, on apprend plein de choses. On voyage, on se passionne. Et moi, ça m'enrichit en tant qu'être humain. Et mon métier d'acteur, je le fais parce que j'ai envie que ça me procure un enrichissement.
Alors, Samuel Le Bihan, s'ouvrir sur le monde, c'est bien, mais certains n'ont pas le temps. Car il regarde la télé. Je vous présente Eva Rock. Eva Rock est notre spécialiste télé.
C'est vrai que saviez-vous, je suis totalement fermée au monde. Hein.
Saviez-vous, Samuel, qu'on perd désormais tous 17 minutes en moyenne chaque soir à s'engueuler avec son conjoint pour savoir ce qu'on va regarder sur Netflix? Un chiffre terrible. Heureusement, Dieu a créé 17 minutes de gagné. Eva, qu'est-ce qu'on regarde ce soir?
Je vous propose une petite bulle d'oxygène qui est à voir ce soir sur France 5. C'est à 20h50. C'est un documentaire pour découvrir 4 enseignants qui sont heureux d'être profs. Ça s'appelle Au bonheur d'être prof. Il y a Nolwenn, par exemple, elle est institutrice dans une école en Bretagne. Je ne l'ai pas fait exprès, Samuel Le Bihan. Tous les élèves de la maternelle à la dernière année du primaire, ils donnent leur avis sur le fonctionnement au quotidien de l'établissement. Comme ce petit garçon, alors lui, il n'est pas très convaincu de l'aménagement de la cour.
Bah, en fait, là, un problème. Parce qu'en fait, là. On ne sait pas si c'est foot ou basket. Parce que si c'est foot, en même temps c'est basket, ça dérange les autres qui font du foot.
Vous avez compris que lui, c'était plutôt foot. Alors en fait, je vous ai cet exemple-là, c'est la démocratie participative. C'est la méthode de Nolwenn qui n'a qu'un objectif, en fait. C'est vivre à l'école comme on aimerait vivre en société, c'est-à-dire tous ensemble. Jean-Pierre, lui, il est prof à Saint-Denis. Vous allez aussi découvrir son parcours. Il a choisi le voyage pour susciter la curiosité des élèves. Des jeunes qui vont avoir la chance de partir au Japon cette année. L'année prochaine, ce sera en Équateur. Jérémy, lui, il enseigne à l'école du domaine des possibles. J'adore ce titre d'école. C'est Françoise Nissen qui l'a créé. Là, c'est le rythme de chaque élève, en fait.
fait, qui est respecté. Et puis, quant à Gérard, que vous découvrirez également, il est prof de génie civil. Et lui, il multiplie les chantiers dans des lieux historiques, en fait, pour intéresser le plus grand nombre de ses étudiants. C'est absolument réjouissant de voir ces enseignants. Alors, même si le documentaire n'élude pas certaines difficultés, la fatigue inhérente à leur fonction, les gamins, c'est pas des bisounours non plus, voilà. Mais c'est à voir sur France 5, ça fait du bien. C'est à 20h50. Mais Mathieu.
J'aime l'école.
Oui, j'aime l'école. Si par hasard votre télé est branchée sur C8, je sais d'avance que je vais vous perdre. Ouais, c'est 117.
Oh, je connais pas ce film.
Le Guernice d'espion, c'est sur C8 à 21h15. 21h15, c'est-à-dire quand Cyril Hanouna accepte de rendre l'antenne.
Donc on sait pas voilà. Quand ça démarre.
Donc comment résister au charme de Jean Dujardin ? On vous attendait.
Et la
c'est
musique
sur C8.
Oscarisée de Ludovic Bourse.
Mais oui, vous adorez.
Qui a aussi fait la bande. La bande originale de
Mais
Zia.
Sinon, au bonheur d'être prof, hein. France 5, 20h50.
Mais bien sûr.
Voilà.
Et voici 17 minutes de gagné.
Europe 1.
À suivre, il n'a peur de rien, ni des astéroïdes tueurs, ni des trous noirs, ni même des momies. Indiana Sirou astique son fouet avant de vous emmener dans un voyage incroyable, au terme duquel vous découvrirez une momie qui parle.
Jackie Quartz.
Non, ça remonte encore plus loin que Jackie Quartz, un prêtre égyptien qui a vécu aux alentours de 3000 avant Jésus-Christ. Des scientifiques ont réussi à recréer ça.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Quatre journalistes, quatre collègues jadis amis, désormais aveuglés par une soif de vaincre absolue. L'équipe est sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1 entre dans sa dernière ligne droite sous l'œil de notre invité d'honneur, Samuel Le Bihan, qui s'apprête comme vous à découvrir notre dernière histoire du jour, une histoire totalement folle. En effet, Samuel, si je vous dis que des chercheurs ont réussi à restituer la voix d'un type mort il y a plus de 3000 ans en travaillant sur sa momie, je suis sûr que ça vous étonne.
Ça fait plus que m'étonner, ça me trouve le cul.
Espérons qu'Alain Sirou, notre consultant scientifique, ne nous ait pas survendu le truc. Alain, je veux bien que les scientifiques soient balèzes, mais de là faire parler une momie quand même. Ça
oui,
paraît...
mais c'est, vrai, c'est vraiment pas survendu du tout. D'ailleurs, je vais vous l'expliquer. Parce que quel est le thème de cette curiosité ? C'est, est-ce qu'on peut écouter les voix du passé ? Pour comprendre ça, je vous propose tout de suite d'écouter la plus ancienne voix enregistrée qu'on possède.
Non.
Vous reconnaissez Au clair de la lune, enregistré il y a 60 ans, le 9 avril 1860.
Il y a 60 ans, à plus de 160 ans Alain.
160 ans,
ouais, exactement. 60 ans, bon.
Par un Français qui avait réussi à enregistrer mais pas à lire. On a réussi à lire cette voix
non.
Il y a quelques années.
Donc lui à l'époque il ne l'avait jamais réentendu.
Il ne l'avait jamais entendu. Et c'est avant Edison. Et donc la question c'est est-ce qu'on peut remonter, écouter des voix du passé. Alors, il y a eu plein d'idées fantastiques. Les physiciens ont imaginé, par exemple, écouter des amphores.
Ah oui que... Non, mais attendez.
Bah oui, des amphores oui, ou des
c'est
poteries.
Comme un sion, quoi.
Exactement, parce que le potier, quand il fabrique l'amphore, il a les doigts sur l'amphore et on aurait pu entendre, finalement, sa voix ou les voix des gens autour de lui.
Mais c'est incroyable.
Mais ça n'a pas marché. Bon.
ça c'est moi là. C'est les montagnes russes oui, de l'émotion.
Vous comprenez la méthode scientifique, c'est on essaie. Et donc là, des chercheurs ont utilisé une momie, une des plus célèbres momies de l'Égypte ancienne, qui s'appelle Nésiamon, qui est un prêtre, scribe, qui était au service de Ramsès XI exactement, qui travaillait au temple de Karnak à Thèbes, donc qui a vécu en l'an sans doute moins 1080, donc il y a 3000 ans, et qui a une particularité, c'est que c'est une momie qui est particulièrement bien conservée, mais très très bien conservée, et en particulier ce qu'on appelle les tissus mous, c'est-à-dire la gorge, larynx, etc., sont bien figés en quelque sorte, bien conservés. Et donc les scientifiques ont scanné la dépouille, ont mesuré le larynx, la gorge, les cavités buccales, nasales, ont réalisé une impression en 3D du système, l'ont couplé à un système de synthèse de voix et écouté ce qu'ils ont entendu. Voilà, voilà. Alors, je sais que Mathieu, je m'attendais à la réaction de Mathieu. Ce qu'on entend, c'est une seule syllabe. C'est une voyelle. Évidemment, c'est partiel, c'est comme une empreinte vocale, mais
c'est un bébé, bien net.
Mais voilà. Exactement, il n'y a pas les lèvres, il n'y a pas la langue, l'articulation, la phonétique. Et donc, la troisième étape à venir, c'est une étape de lire de l'Égyptien ancien, et ce qui est très difficile parce qu'aujourd'hui, on a des hiéroglyphes, mais on ne sait pas très bien
comment ça se prononçait.
Où sont les consonnes, les voyelles. Et je vous propose d'écouter un homme d'aujourd'hui qui essaie de lire, en tout cas l'interprétation qu'on a aujourd'hui de l'Égyptien ancien.
E merha en tebanch merek eu nen seneb.
Ça, c'est l'Égyptien ancien.
L'objectif, ça va être de coupler la voix
de cette momie avec justement cette histoire
et de faire Chewbacca. Parler.
Mais oui, et de faire Chewbacca. Donc vous voyez qu'on est dans quelque chose qui est assez extraordinaire, qui est à la fois une aventure intellectuelle un peu folle, qui est de la science, parce que il faut fabriquer des engins capables de reconstituer la voix, et ça c'est pas simple, et c'est aussi à ça que ça sert, c'est-à-dire que les biologistes et les gens qui sont sur de l'intelligence artificielle ou des robots, vont travailler sur la voix et sur la façon dont elle se fabrique. Et puis en même temps, il y a un côté fascinant que d'entendre quelqu'un, je dirais entendre avec plein de guillemets autour, mais une voix venue du passé, de savoir qu'elle a 3000 ans et que dans son tombeau, et alors là c'est la chute, elle est formidable, dans son tombeau il y a marqué, il avait marqué son désir de faire
que
entendre
sa voix. Que des cons dans des
voix.
Années essaient de recréer ma voix et que ça aboutisse au cri d'un mouton.
Non, il est écrit qu'il souhaitait faire entendre sa voix dans l'au-delà afin de vivre éternellement.
Oh,
non.
Mais non.
Exactement.
Mais c'est fou ça, Alain.
Ah, oui.
Vous
voilà,
êtes sûr pour de
vous.
Ça oui, tout ils l'ont bien traduit en hiéroglyphe là.
Ben, ouais.
J'ai juste une pensée pour nos auditeurs qui prendraient l'émission, qui écouteraient l'émission par bris, c'est-à-dire la première heure, un peu la première heure, un peu la deuxième, et qui penseraient que peut-être ce qu'on entend là est la duchesse du Luxembourg. On ne sait plus trop, tout se mélange dans nos têtes. Ça vous intéresse ces histoires-là, Samuel Lebihan?
Je trouve ça fascinant.
Ça vous fascine?
Oui, je trouve ça fascinant. Alors, en même temps, je me dis, bon, bah, alors c'est une momie, le larynx a peut-être un petit peu bougé, c'est des tissus mous justement. Donc la voix qu'on entend n'est peut-être pas la voix qu'il avait au départ. Pas,
bah, enfin, on l'espère pour lui quelque part, parce que les homélies pour le pape, il y a personne pour nous contredire.
Voilà, mais tout ça, c'est assez sympa. Alors, il y a des gens, c'est financé, ça. Il y a des gens qui...
Alors, ça s'appelle...
On a du mal à trouver des fonds pour le film, et vous financez vos conneries pour rechercher des voix de prêtres égyptiens.
Encore une fois, ça sert pour le travail sur la voix, et en particulier, travailler sur les gens qui sont malades avec des questions de larynx. Donc, vous allez la rechercher.
C'est ludique, mais en vérité, ça a fait avancer les choses.
Vous êtes trop bon, Samuel. Moi, je dis qu'il faut plutôt donner de l'argent aux AVS qui aident les enfants dans les classes. Et je salue ma sœur, Laurence, qui est AVS et justement qui s'occupe d'enfants autistes.
Quel métier magnifique.
Exactement. Et lisez le livre de Samuel Lebihan qui ressort en poche. Un bonheur que je ne souhaite à personne. Samuel Lebihan qui est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, vous vous sentez encore ballonné des excès des fêtes. En cette fin janvier, vous avez à cœur de détoxifier votre corps. J'ai le regret de vous annoncer que votre coach minceur a été assommé par Olivier Pouls, qui lui a mis un grand coup de pata negra dans la gueule. À la place du boulgour de quinoa citronné qu'il vous avait prévu, vous aurez donc droit à un plat à base de camembert. Votre nouveau partenaire minceur, à tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage, c'est comme un camembert au lait cru. Oh, c'est sur la fin que c'est le meilleur. Winston Churchill.
Ah, c'est beau.
Non, c'est juste con, Eva. Mais en revanche, la grande force de notre émission, c'est, je crois on peut le dire, l'état dans lequel ressortent nos invités vedettes. Alors évidemment, on a un secret qu'on ne révélera pas. Même si de Cadmerade à Daniel Pennac hier, quelques indices permettent de le deviner.
Décalé Qatar, décalé Qatar.
Ah, c'est de la vinasse.
Décalé Qatar.
Ça fait du bien.
Ça fait du bien. Je vous sers un petit jus de pomme, le même que Cad et Daniel.
Plaisir.
Alors, on parle de vos multiples activités, Samuel Lebihan. On va parler de la série Alex Hugo sur France 2 depuis 5 saisons.
Là.
Oui, Eva, vous voulez un petit bisou de camembert?
Non, je veux pas un bisou de camembert. Je veux surtout que vous éloignez de moi.
Parlez-nous, Eva, de cette série excellente dont on parlait déjà un peu tout à l'heure.
Samuel Lebihan, vous êtes le héros de la série Alex Hugo. C'est sur France 2, ça fait 5 saisons déjà. Est-ce que la 6e a été tournée et bientôt programmée?
Ouais. Il s'est diffusé en septembre, chaque année, donc un an après.
Mais alors vous, le breton, qui est adorateur de la mer, vous êtes adapté à la montagne facilement. Parce qu'il faut rappeler, vous jouez le rôle d'un flic marseillais qui s'est un peu exilé dans les montagnes. Vous êtes vraiment dans un décor naturel au milieu des montagnes.
Complètement, on est vraiment projeté dans une nature extrêmement forte. Moi, je suis comme le personnage, j'ai été catapulté dans cette région et j'ai appris à la découvrir et je me suis vraiment passionné parce que je connaissais pas la montagne l'été, je me suis mis à faire de la randonnée, de l'escalade, du vélo, maintenant je me fais quelques cols mythiques du Tour de France. Il y a énormément d'activités, c'est agréable, c'est doux, les gens sont super sympas, c'est un moment de c'est un peu des vacances, hein. On n'est pas vraiment en train de travailler. Quoi.
Vous êtes payé quand même.
Oui.
Non, mais ça renseigne à la production qui s'imagine une petite injustice. Mais vous allez leur faire des saisons gratis.
Un tournage avec Lionel Astier, c'est vrai que ça doit ressembler plutôt aux vacances.
Il est super, ouais. Il est très drôle et très pro.
Il paraît que vous emmenez souvent votre fille d'ailleurs sur les tournages.
Oui, elle est à l'école là-bas. Moi, j'organise parce qu'elle vit avec moi. Donc du coup, je suis obligé d'anticiper. Mais il y a les équipes de tournage qui m'aident. C'est la régie, la production, m'aident à organiser, l'inscription à l'école. Donc j'avais engagé pour trouver l'AVS, ensuite trouver les babysitters. Mais il faut dire à la montagne, ou ailleurs, mais j'ai trouvé des gens vraiment super, qui sont très investis, qui prennent le temps. C'est vrai qu'à Paris, on est dans un rythme comme ça où on n'apprécie plus les choses. Et tous les gens qui entouraient ma fille étaient vraiment incroyablement investis et attentifs, et ils l'ont et vraiment aidé à progresser.
Une question que j'aimerais vous poser là-dessus, pour revenir donc à ce livre, Un bonheur que je ne souhaite à personne. On dit souvent que les enfants autistes, plus que les autres enfants, ont besoin de repères, d'un cadre qui est toujours le même. C'est pas ce que vous faites avec votre fille, ouais. Et ça fonctionne, mais
j'ai pas le choix, c'est-à-dire que j'ai décidé que son repère, ce serait moi. Ouais. Et autour, le monde bouge.
Peu importe, tant
on a beaucoup voyagé, on a fait 5 pays, je suis sur les tournages, je lui ai demandé beaucoup de s'adapter, et à chaque fois, j'ai vraiment... ça me demande plus de temps, plus d'attention, et puis trouver des équipes solides, mais ça fonctionne, c'est une question d'organisation, ça fonctionne. Et elle, du coup, elle a développé énormément de facultés d'adaptation, d'interaction sociale, puisqu'elle est avec des personnes différentes. Et finalement, ça lui a permis d'énormément s'épanouir. Et j'ai compris une chose, c'est qu'en fait, c'est les enfants autistes les autistes ont besoin de ce repère. Mais ce n'est pas forcément ce qu'ils veulent qui est le meilleur pour eux. En fait, les habituer aussi à un certain changement, alors ça crée des angoisses, ça crée des paniques,
mais
doucement, ça les aide aussi à apprivoiser l'environnement. Donc ça l'a beaucoup aidé, étonnamment. Maintenant, j'essaye vraiment de stabiliser beaucoup plus, parce que c'était assez exceptionnel. Pendant 2 ans, ça a été assez mouvementé, mais c'était super. Et puis aujourd'hui, je pense que j'ai plutôt envie de travailler sur stabiliser, puis vraiment mettre des objectifs assez clairs sur des choses qui... elle est à l'école, elle est en CE2, elle suit le niveau scolaire, mais ça demande un petit peu plus d'encadrement. Et ça, j'ai vraiment envie qu'on passe pas à côté, quoi.
Il y a un cliché aussi que vous dénoncez, c'est quand les gens qui connaissent pas grand-chose à l'autisme, on est nombreux à pas y connaître grand-chose, c'est de se dire, d'associer autisme au syndrome Asperger. C'est-à-dire, on se dit, c'est forcément un génie, en fait. Donc là, t'as de la chance.
Il
faut dire qu'il y a très peu d'enfants autistes qui sont des surdoués, en fait. C'est plutôt...
Bien sûr, c'est plutôt le contraire. La plupart du temps, c'est souvent, il y a un retard mental, ou alors un retard d'apprentissage, mais évidemment, on a une espèce de cliché, et puis ça arrive. Il y a aussi des enfants qui sont extrêmement spécialisés sur des domaines, qui vont mémoriser l'heure des trains, par exemple, mais ça sert à rien. Dans notre vie, dans notre société, c'est absolument pas applicable. C'est le mystère du cerveau. C'est dingue à quel point on voit... par exemple, ma fille a quand même une particularité, c'est qu'elle a une mémoire insensée, la mémoire des prénoms. Et donc, elle s'amusait, comme un jeu, à apprendre tous les prénoms, mais même dans la rue. C'est-à-dire qu'on est à la boulangerie, on attend, puis elle demandait le prénom des gens. Et des fois, on est dans la rue, on marchait, et elle disait « Bonjour Stéphane ». Et donc, les gens ne se rappelaient plus de cette petite fille. Et ils se retournaient, ils ne comprenaient pas. Et elle avait compris que... Je pense qu'elle en jouait un petit peu, parce qu'elle a compris qu'il y avait une faculté là. Mais bon, voilà, ça, je me dis, mais le cerveau est assez incroyable. C'est-à-dire qu'elle a des accès directs à des parties de son cerveau qui sont de la mémoire sur des choses complètement abstraites, et puis d'autres où la porte est fermée.
Et il y a un autre truc sur lequel je voulais juste revenir en deux mots, c'est l'humour. Vous lui inculquez le sens de l'humour, ça peut être aussi...
Oui, je fais des blagues tout le temps, donc c'est un peu pour qu'elle apprenne le second degré, parce que les autistes sont vraiment très
premier degré.
Et donc, alors en même temps, ils mentent jamais. C'est super. et je vais apprendre... Elle est un peu filou. Elle adore ça, elle comprend. Alors du coup, maintenant, elle commence à me le faire aussi.
Déstabilisant.
Faut que je fasse gaffe, parce qu'elle va apprendre le mensonge après.
Alors, depuis quelques minutes, Samuel, je vous vois un peu tiquer. Vous vous dites, bon sang, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur de camembert dans le studio? Eh bien, c'est Olivier Pouls, le gargantua belge. Un individu hors norme qui n'a jamais compris pourquoi le film La Grande Bouffe avait fait autant polémique, lui dont c'est le régime quotidien. Un aventurier du gras qui ne doit sa survie qu'à une hygiène de vie extrêmement rigoureuse. Chaque matin au réveil,
petite goutte de vin blanc, bien sûr, petite goutte de schnapps.
Bien évidemment. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu, bonjour Samuel, bonjour tout le monde. Et c'est vrai que ça hume bon dans le studio.
Oui, c'est vrai, mais votre camembert n'est pas assez fait. C'est ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure.
Ben vous savez, c'est comme ça qu'on le mange là-bas.
Comment le
camembert vraiment fait, c'est plutôt une mode parisienne. Vous savez pourquoi?
Ah bon?
Mais tout simplement parce que c'était le temps que mettait le camembert pour arriver de sa région de production à Paris. Entre-temps, il devenait fait. Et donc, on avait plutôt l'habitude de le manger coulant ici, alors que sur place, on le mange plus frais. Bon, depuis, chacun sa chapelle.
Fier d'être parisien.
Voilà. Je suis d'accord avec vous. Tout à fait bien fait. Alors, Samuel, on a beaucoup parlé de la Bretagne, mais c'est bien en Normandie que vous êtes né quand même.
Absolument, excusez-moi. Ah, ouais. Mais là, il est très bon ce camembert.
Vous êtes né au pays du camembert. Et donc, je n'ai pas résisté.
Arrange dans la baie du Mont-Saint-Michel.
Voilà, mais j'ai pas résisté au plaisir de vous proposer une recette originale à base de camembert. Et quand on parle de camembert, il n'y en a qu'un, l'unique, le vrai, le camembert d'appellation d'origine protégée.
Au lait cru.
Au lait cru, évidemment. Bien sûr. Parce qu'il faut savoir que camembert est une marque aujourd'hui. Ça n'a pas été déposé au départ. Ce qui fait que l'appellation simplement camembert, elle est mondiale. On fait du camembert en Italie, aux États-Unis, n'importe où. On a le droit d'appeler ça camembert. Donc, pour avoir vraiment la certitude d'avoir un produit de qualité, on prend un camembert d'appellation d'origine protégée. On va aussi prendre quelques pommes, tant qu'à faire.
5 fruits et légumes par jour.
Évidemment, tant qu'être en Normandie. Des pommes à compote, donc de la Rainette ou de la Boscope. Et puis, alors là, c'est pas tout à fait normand, mais c'est pas grave, des feuilles de briques. Et on va faire des briques camembert pommes.
Mmh. Waouh, super.
Hyper facile à faire.
Ouais. Comme dirait la momie. Ça a l'air de lui plaire.
Oui, ça a l'air de lui plaire. Et je ne sais pas si on mangeait ça à l'époque, mais en tout cas, il y a quelques petites idées de cette cuisine méditerranéenne.
Les camemberts en Égypte en 3000 avant Jésus-Christ. C'était bon en histoire. Enchaîne.
Donc, de jolis morceaux de camembert qu'on va poser sur la feuille de brique, des petits dés de pommes. On va refermer notre feuille de brique en triangle. Alors, il y a une petite astuce, un petit tour de main à prendre, mais c'est assez facile. On va badigeonner avec un peu d'huile, permettre d'obtenir le fameux croustillant à l'extérieur et moelleux dedans, bien sûr. Et puis, on va poser ces petits triangles de briques fourrées camembert-pomme dans un four chaleur tournante, mon cher Mathieu.
Toujours chaleur tournante.
À 180 degrés pendant une petite dizaine de minutes. Et donc, le camembert, évidemment, à l'intérieur va fondre. La pomme, elle va cuire, elle va compoter. La brique, elle va nous retenir tout ça en apportant le croquant. Mmh. Et au moment où vous coupez la puis vous avez les saveurs de pommes.
Une chronique à bruitage.
Mais vos pommes, en 10 minutes, elles font de la compote.
Vous les coupez en
petits bouts.
Elles vont cuire, mais elles ne seront pas complètement compotées. Elles gardent un petit peu de texture quand même.
Mais je m'en fous, j'en mangerai pas. Mais
ce mélange.
Mais Eva, n'en dégoûtez pas les autres si vous n'aimez pas le fromage. Ici, on aime le fromage.
Je souffre depuis 10 minutes. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point.
Bouchez-vous les oreilles.
Bon, écoutez, tournez de camembert pour ceux qui le veulent.
Tournez pour tout le monde.
On accompagne ça, évidemment, d'une belle bouteille de cidre.
Ah,
évidemment. Ouais. L'association camembert-cidre, c'est une association majeure.
Le monde bouge, mais pas lui. Merci Olivier Pouls, qu'on trouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1.
Olivier, restez avec nous un peu plus aujourd'hui, ça fait tellement plaisir à Eva. Et comme ça, vous vivrez aux premières loges le dénouement de l'équipée sauvage. Qui repartira avec la couronne de chroniqueur du jour? Qui l'emportera? Alain, Emmanuel, Mathieu ou bien Anne?
Elle est bonne aussi.
Oui, vous votez pas Pouls, heureusement. A tout de suite pour la grande finale.
16h, 18h sur Europe 1. L'équipée sauvage, Mathieu Noël.
L'équipée sauvage touche à sa fin. Pendant 2 heures, les meilleurs journalistes d'Europe 1 se sont écharpés pour décrocher in fine cette rutilante couronne de chroniqueur du jour. Une fois de plus, notre invité aujourd'hui, Samuel Lebihan, a pu constater la bonne ambiance qui régnait dans la rédaction d'Europe 1. Une bienveillance symbolisée par les propos d'Eva Rock tout à l'heure durant la coupure pub concernant une collègue dont je vous révélerai le nom demain.
Elle n'est pas ronde ou vaguement enveloppée, non, elle est grosse.
Qui sera élu chroniqueur du jour? Vous avez chacun 10 secondes pour nous convaincre. Samuel Lebihan, les auditeurs et moi, Alain Siroux. Je crois que quelqu'un a envie de voter pour vous. Voilà un témoignage encourageant pour vous, Alain. Pourquoi faut-il voter pour vous et votre momie qui parle?
Parce que je pense que vous vous souviendrez de ce jour, Samuel et vous tous, où vous avez pour la première fois entendu, non pas le retour de la momie, mais les premières paroles momie.
Même lui, il n'y croit pas. Anne Le Gall, pourquoi voter pour vous et votre train de nuit?
Alors, parce que vous êtes breton, parce que vous voyez le côté positif des choses, parce que vous êtes écolo, donc si on raccroche tous les wagons,
soyez bout en train, elle l'a dit, parce que dans un silence terrible, soyez bout en train après avoir accroché les wagons. C'est désolant. Mathieu Charrier.
Parce que j'ai vérifié, quand vous étiez membre du jury d'Angoulême, vous avez voté pour Alfred Comé-Prima et qu'Alfred fait partie de ces jeunes auteurs de bande dessinée qui ont besoin qu'on les soutienne.
Oui, la stratégie du lèche-botte, pourquoi pas?
Pas du tout.
Emmanuel Duteil, pourquoi voter pour vous? Et votre chronique exceptionnelle. C'était mieux que beaucoup de sketchs humoristes.
J'ai pas besoin de faire de faux jeux de mots pour faire rire tout le monde. Et que grâce à moi, il y a eu un fou rire dans cette émission. Et c'est ça, vrai. Ça mérite quand même c'est au vrai. Moins un demi-point.
Oh, ça mérite quelque chose. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Alors, j'avais misé sur la chronique d'Alain Siroux, mais en fait, c'est les trains de Anne qui ont remporté les deux points.
Les trains de Anne, ouais. Donc, merci Anne beaucoup. Conforte son avance au championnat. Elle est toujours leader du championnat. prochaine à Europe 1. Pour ma part, je donne non pas un demi-point, mais un point bien entier à Emmanuel Dutheil pour sa chronique sur le
l'échec.
Pour m'intéresser au duché du Luxembourg,
au
grand duché, pardon.
Oh, quand même.
Non pas le petit duché, au grand duché du Luxembourg, il fallait être assez fort. Mais vous le savez, ici, mesdames et messieurs, c'est l'invité qui a le dernier mot, Samuel Le Bihan, qui, selon vous, mérite d'être sacré chroniqueur du jour. Attention, vous avez 3 points.
Mathieu Charrier rend la couronne.
J'ai eu un moment d'émotion et c'est les trains de nuit évidemment.
C'est les trains de nuit qui l'emportent.
Bien sûr.
Mais Anne Le Gall, elle rafle toujours la mise. Je ne sais pas comment vous faites pour vous renseigner sur les goûts de l'invité avant. Je ne sais pas comment vous trafiquez votre truc.
Le Bihan, Le Gall.
C'est Anne Le Gall qui remporte la 103e journée de l'équipée sauvage. On remercie chaudement notre invité Samuel Le Bihan, dont le livre Un bonheur que je ne souhaite à personne est disponible désormais en poche aux éditions J'ai lu. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir joué le jeu, Samuel. Merci également à mes équipiers du jour. Eva Rock, Anne Le Gall, Alain Sirou, Emmanuel Dutheil, Mathieu Charrier. L'équipée sauvage revient demain 16h, bien sûr.